Lissot. La clé des sons, pour pénétrer au cœur d'une œuvre, une émission dirigée par le chef d'orchestre Michel Brun.
La sonate au clair de lune de Beethoven.
Je suis désolé de commencer cette série d'émissions par la mise à bas brutale d'un mythe. La sonate au clair de lune de Beethoven n'existe pas. Pas plus d'ailleurs que d'autres de ses sonates, la Passionata ou la Pathétique. Oh, ne vous inquiétez pas, elles ont bien été composées par Beethoven, mais ça n'est en aucun cas lui qui les a appelées ainsi. Tous ces surnoms ont été donnés par d'autres, et parfois bien après leur composition. Jugez-en. La sonate dont nous parlons aujourd'hui, sans doute la plus célèbre de Beethoven, a été baptisée Clair de Lune en 1832, soit 5 ans après sa mort. Le poète Ludwig Rellstab voyait en effet dans le premier mouvement de cette sonate l'évocation d'une barque au clair de lune sur le lac des quatre cantons. Notez au passage la précision géographique. Il n'en a pas fallu davantage pour que ce surnom passe à la postérité. Or, c'est un complet contresens. Cela donne l'impression qu'il s'agit d'une douce rêverie, alors que de l'aveu même de Beethoven, c'est plutôt une œuvre funèbre, dont on dit que le premier mouvement fut improvisé auprès du cadavre d'un ami. Tout cela peut sembler de peu d'importance, sauf si l'on réalise qu'un tel sous-titre peut orienter l'interprétation. Écoutons deux versions totalement différentes du début de cette pièce. Dans la première, on a l'impression d'un balancement serein, alors que la seconde nous emmène dans un monde infiniment plus grave et profond. Il faut dire que cette période est douloureuse pour Beethoven. Il s'aperçoit qu'il commence petit à petit à perdre l'audition. Il rentre alors dans une ère de dépression, comme il en connut plusieurs au cours de sa vie. Beethoven ne comprenait pas l'engouement que le public éprouva dès sa parution pour cette sonate, et lui-même disait en préférer d'autres. Il n'a d'ailleurs pas cherché à la mettre particulièrement en valeur, puisqu'elle fait partie d'un opus, le numéro 27, qui regroupe deux sonates, la numéro 14, qui nous occupe aujourd'hui, mais également la numéro 13. Toutes les deux ont d'ailleurs la même particularité. Beethoven les a qualifiées de quasi una fantasia, ce qui, dans son esprit, signifie sans doute que leur forme ne correspond pas au canon en vigueur à l'époque. La sonate dite au clair de lune ne comporte par exemple que 3 mouvements au lieu des 4 habituels, comme si Beethoven entamait déjà ses explorations pour s'affranchir des conventions musicales de son temps. Autre aspect qui peut sembler de nos jours incongru. Sur la page de garde est écrit « Sonate pour clavecin ou pianoforte. » Le clavecin pour jouer Beethoven, vraiment? Rappelons que le clavecin est l'instrument à clavier triomphant à l'époque baroque, dont on considère généralement qu'elle s'est achevée à la mort de Bach en 1750, c'est-à-dire 50 ans avant la composition de la sonate dite au clair de lune. Mais au début du 19e siècle, le clavecin ne répond plus aux souhaits des compositeurs, essentiellement parce qu'il ne permet pas de faire des nuances. Écoutez pourtant. Quant au pianoforte, l'autre instrument mentionné dans le titre de l'œuvre, c'est celui que connaissait Beethoven, une sorte de chaînon entre le clavecin, amené à s'effacer, et ce qui deviendra, au début du XXe siècle, le piano moderne. Écoutez maintenant le début de la pièce sur cet instrument. Thank you. Mais alors me direz-vous, pourquoi proposer de jouer cette sonate au clavecin si celui-ci n'est pas adapté ? Oh, je pense que l'explication est toute simple. Une fois de plus, cette mention n'est pas de Beethoven, mais plus probablement de son éditeur, qui ne voulait pas se priver de ses amateurs qui avaient encore un clavecin chez eux. Et oui, que voulez-vous ? Les innovations mettent du temps à convaincre. Surtout si elles coûtent cher à l'achat. Ce mouvement débute de façon étrange. Beethoven nous donne, dans un premier temps, deux éléments à entendre. Un mouvement régulier de croches, groupé par trois, qui semble bien être le motif principal du morceau. Et sous ce motif, une basse en note longue et qui commence en descendant. Voici les deux combinés. Et tout à coup, lorsqu'on pense que ces deux éléments vont constituer l'unique matière musicale du morceau, il fait entrer une mélodie très simple, mais d'un caractère désespéré et lancinant, avec ses notes répétées. L'effet est saisissant. Nous allons maintenant écouter ce premier mouvement intégralement, dans une interprétation que je trouve extraordinaire de profondeur, mais qui est exigeante pour l'auditeur. Pas de séduction dans cette version extraite de l'intégrale enregistrée par le grand pianiste chilien Claudio Arrau. Mais auparavant, prenons congé avec cette phrase lumineuse que Proust glisse dans « Du côté de chez Swann ». Il faudra qu'il joue la sonate « Clair de lune » dans l'obscurité pour mieux voir s'éclairer les choses. Thank you.
Thank you.